merci beaucoup, Justine, pour cette conférence extrêmement intéressante et qui, je pense, nous renvoie aux enjeux très profonds, à mon avis, de notre démocratie contemporaine. Alors, je voudrais te poser une question pour lancer le débat. D'ailleurs, ce serait davantage une objection, je ne sais pas si c'est la mienne, mais une objection qu'on pourrait te faire. Je ne sais pas encore si c'est la mienne. Peut-être qu'en fonction de ta réponse, je saurai si c'est la mienne ou pas. Au fond, tu dis, alors je reprends ton titre, pour une défense libérale du vote obligatoire. Si je t'ai bien suivi, il ne peut y avoir de défense libérale du vote obligatoire qu'à bien entendre ce qu'on appelle vote et ce qu'on appelle obligation.
Oui. Hein,
il me semble que ce n'est pas tout à fait un vote, puisque c'est l'obligation de se rendre aux urnes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et que ce n'est pas non plus une obligation, puisque comme tu l'as dit, hein, il me semble, ce n'est pas une obligation civique comme il est obligatoire de payer ses impôts, pour une raison d'ailleurs simple, c'est qu'il n'y a pas de sanction. Donc ce n'est pas une obligation assortie de sanction, donc c'est une obligation d'un certain type, mais pourquoi pas, hein, bon. Mais alors, si jamais il ne peut y avoir une défense libérale du vote obligatoire qu'à condition, au fond, qu'il y ait obligation sans punition de se rendre aux urnes, mais qu'il n'y ait pas obligation, d'une certaine manière, de choisir. C'est bien ça. Il n'y a pas obligation de se prononcer. On peut ne pas se prononcer.
C'est une obligation, c'est pour une défense libérale de l'obligation de se rendre aux urnes.
De se rendre aux urnes.
C'était pour que
mais
ce
alors,
soit...
alors, l'objection qu'on pourrait te faire, encore une fois, je ne sais pas si c'est la mienne, mais est-ce que ça ne traduit pas une réduction extrêmement formelle ? Je n'ose pas reprendre le terme de rituel. Parce qu'on va retomber dans l'objection de l'Église, etc., etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas ici tout simplement une forme de rituel républicain, démocratique, où il s'agirait simplement de se rendre aux urnes, mais où il ne s'agirait pas précisément de se prononcer ? Et auquel cas, s'il y a rituel qu'on peut justifier, il peut y avoir une fonction sociale du rituel républicain, ça peut souder une communauté politique, etc. Mais dans ce cas-là, peut-on encore parler d'autonomie, s'il n'y a pas de choix ? Et peut-on encore parler d'autonomie, c'est-à-dire de possibilité d'être soumis à la loi à laquelle, d'une certaine manière, on a donné son consentement, d'une manière ou d'une autre, si au fond il s'agit simplement d'un rituel républicain qui consiste à aller se rendre aux urnes. Est-ce que tu as bien compris la nature de ma objection ?
Oui, enfin oui et non.
Est-ce qu'il n'y a pas une réduction du coup du choix électoral à un rituel républicain du coup qui devient extrêmement formel ?
Il ne devient pas formel parce que dans les faits, en fait, je veux dire, il est important, effectivement, j'ai dit de ne pas dire vote obligatoire parce qu'il faut toujours rappeler que la possibilité de ne pas voter est préservée. Mais ça ne se réduit pas à un rituel formel dans la mesure où l'immense majorité des gens qui auraient été à la pêche ce jour-là et qui seront obligés de se rendre aux urnes vont effectivement voter. Donc, je dirais, il ne s'agit pas de se présenter, ils vont effectivement voter.
Ils vont aux urnes,
mais ils vont effectivement voter. C'est ce qu'on va constater. Il y a un certain nombre.
Ils vont voter, mais
c'est-à-dire le grand avantage, c'est qu'au lieu, c'est que l'abstention, s'il y a une abstention qui doit s'exprimer, elle a la possibilité de s'exprimer, mais elle va être l'expression d'un choix conscient et délibéré. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans le bureau de vote, ils vont dire voilà, moi je coche la case, je m'abstiens.
D'accord.
Et donc, tu mesures, ça permet de faire la part des choses entre celui qui ne vote pas parce qu'il préfère aller à la pêche ce jour-là, parce qu'il est totalement, il n'a absolument pas l'information qu'il dispose, il se sent dans un état d'impuissance, il a l'impression que son vote ne pèse pas, toutes les raisons. Donc, ça permet en fait de mieux voir, de mieux discriminer. Donc, je ne dirais pas que insister sur le fait qu'on n'est pas obligé de voter ne revient pas à tomber dans le simple rituel républicain. Parce que dans les faits, l'immense majorité des gens vont exprimer un choix, du coup.
D'accord. Mais donc, dans les faits, c'est-à-dire à un niveau purement descriptif,
oui.
Et non pas à un niveau normatif. C'est-à-dire
oui, mais à un niveau normatif...
s'arrête quand même au...
Alors, au niveau normatif, je ne vois pas l'objection. Qu'est-ce qui...
L'objection consisterait à dire, au fond, vous n'êtes tenu qu'à venir aux urnes, mais vous n'êtes pas tenu de voter.
Oui, vous êtes tenu de rentrer dans l'isoloir. Après, ce que vous faites dans l'isoloir, il n'y a aucun moyen, sauf à violer et entrer dans un système, à violer le secret du vote, il n'y a aucun moyen de décider si la personne reste les bras croisés et ressort de l'isoloir. Chacun fait. Oui.
Il me semble que une défense républicaine, du vote obligatoire, qui n'est pas la tienne, hein, une défense républicaine du vote obligatoire insisterait sur l'idée qu'il ne peut y avoir véritablement d'autonomie qu'à partir du moment où tout le monde se prononce.
Oui, mais alors là, pour moi, tu sors du paradigme libéral, parce que si tu obliger la personne à se prononcer, je ne sais même pas si, à mon avis, tu sors même du paradigme républicain, parce qu'obliger une personne à se prononcer, il n'y a pas moyen de le faire sans violer le secret du vote.
Vous sur le forcer à être libre, etc., de Rousseau.
Oui, voilà. Mais alors à ce moment-là, tu abolis le secret du vote, et tu sors complètement de ma justification, ça c'est sûr.
Je ne plaide pas pour l'abolition du secret du vote.
Vous voulez parler avant moi?
Oui, je parle avant toi parce que je vais...
Pascal.
Juste une petite question. Je me posais la question suivante quant à votre argument, que je trouve très bon, qui consiste à dire, in fine, il faut envoyer les pauvres voter, il faut les forcer à l'ouvrir en quelque sorte, pour qu'ils puissent défendre leurs intérêts, donc pour établir une sorte d'égalité, etc. N'y a-t-il pas là une forme de paternalisme sournois qui consiste à dire qu'il faut envoyer les pauvres voter pour leur bien, en fin de compte?
J'ai déjà eu souvent cette objection de paternalisme, donc manifestement, je n'y réponds pas de toute façon tout à fait convaincante
parce que j'ai tenté d'y répondre. Pourquoi est-ce que c'est paternaliste de considérer qu'au fond, la participation politique doit être le plus égale possible? Moi, je ne dis pas... je vois pas en quoi c'est plus paternaliste que des politiques de redistribution sociale. Consiste à dire, il faut... parce qu'on pourrait dire le même argument. Je veux dire, en raisonnant de façon très basique, les plus riches n'ont pas besoin de politiques de redistribution sociale. Donc c'est assez paternaliste de mettre en place des systèmes de prélèvement collectif et une forme de redistribution sociale, parce qu'on se préoccupe des pauvres qui n'ont pas assez... eux, n'ont pas les moyens de se payer leurs dépenses de santé, etc. Mon argument consiste à dire, on constate que si on laisse les choses au libre jeu des volontés individuelles, on constate que ce sont les plus éduqués et donc les plus privilégiés qui vont aller voter, et donc important de rendre la participation la plus égale possible. Je ne vois pas ce que ça... Si c'est paternaliste, peut-être, mais alors toutes les politiques sociales le sont aussi, si vous voulez.
Bien sûr.
En un sens. Donc il y a peut-être un paternalisme léger que j'assumerais. Effectivement, mais qui n'a pour but que de rendre la participation égale, la plus égale possible, et qui s'inscrit dans le prolongement d'un certain nombre de politiques qui sont justifiées. Peut-être qu'on n'échappe pas tout à fait, effectivement, il faudrait peut-être assumer un paternalisme léger, alors.
Alors, Bruno, Patrick, Jean-Paul, et après je prendrai une autre question.
C'est pour prolonger le propos de Pascal. Il me semble que c'est paternaliste, mais après c'est une question ouverte que de savoir si on doit être paternaliste ou non. C'est peut-être très bien d'être paternaliste. Simplement, je voulais dire qu'on a l'impression que vous voulez rendre obligatoire le vote pour permettre aux classes défavorisées de participer à la vie politique, précisément parce que dans leur cas, le choix n'est pas conscient. S'ils étaient éduqués, s'ils étaient vraiment autonomes, si leur choix était vraiment éclairé, ils iraient spontanément voter. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc il faut rendre obligatoire le vote. Et donc, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une forme de paternalisme? C'est-à-dire que vous présupposez que les individus doivent être éduqués au vote par l'obligation de voter.
Alors, non.
Ça ne veut pas du tout dire que le paternalisme n'est pas une bonne raison de rendre le vote obligatoire. Mais il me semble que c'est paternaliste. Mais ce n'est pas tellement grave. On peut obliger les gens à être éduqués parce que c'est un très bon moyen de mener une vie normale dans une société démocratique. C'est aussi, en un certain sens, paternaliste.
Mais vous voulez dire que je présuppose, là où je serais paternaliste, c'est que je présuppose qu'une personne qui ne va pas voter le fait parce qu'elle n'est pas éduquée. C'est ça qui est paternaliste.
C'est plus ou moins suggéré, les classes.
Mais sinon, ce que j'ai dit, c'est que c'est même pas un argument normatif, j'ai dit que tous les chiffres montrent que le niveau de participation est étroitement lié au niveau d'instruction.
Ça, c'est... Il n'y a pas une étude qui ne va pas vous montrer que le taux de participation est plus élevé dans les classes les plus éduquées. C'est un constat empirique. Là où je ne bascule pas complètement, ce consiste pas à dire tous ceux qui s'abstiennent le font parce qu'ils ne sont pas éduqués. Mm-hmm. Pas du tout. Ce que je dis simplement, c'est qu'on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à faire la part des choses entre l'abstention délibérée, du bobo qui préfère prendre son week-end, et, parce qu'elle existe de plus en plus. Il y a des tas d'études qui ont été faites, alors c'est vrai que ce n'est pas mon domaine, mais par mes collègues politologues, et qui parlent de ce qu'on appelle l'abstention dans le jeu politique. Ce sont des gens qui sont en fait très informés, très impliqués dans des associations, dans les écoles, machin, mais qui sont, deviennent de nouveaux abstentionnistes. Donc c'est, là, ce n'est pas lié au niveau d'éducation. On n'arrive pas à faire la part entre cette abstention délibérée et puis l'abstention qui est imposée, en fait, qui est la résultante de contingences sociales. Et donc, je dis, l'avantage du vote, de l'obligation légale de se rendre aux urnes, c'est que si vous avez la possibilité d'exprimer cette abstention, on va pouvoir mieux faire la part des choses entre celui qui ne va pas voter parce qu'il se sent écrasé dans un sentiment d'impuissance par rapport au système politique et celui qui dit « je me reconnais dans aucun des partis en lice et donc je ne vote pas ». Donc je ne crois pas imputer tellement, je pars d'un constat empirique sur le niveau d'instruction et le taux de vote. Je n'en déduis pas que toute personne qui s'abstient est simplement une personne non éduquée. Parce qu'alors on pourrait, quelqu'un m'avait fait l'objection aussi quand j'ai discuté de ça, il dit mais pourquoi le plus simple alors c'est d'augmenter le niveau d'éducation.
C'est un manque d'éducation. Hein. C'est oui. Évident que c'est, tout ça est assez général. Je ne sais pas quelles sont les proportions. Oui. Donc, c'était pas. Je suis tout à fait conscient qu'il y a des individus qui sont très éduqués qui ne veulent pas voter. C'est pas le problème. Mais vous avez tellement insisté sur le fait que le problème, enfin un des problèmes, hein, c'était que les déterminants sociaux peuvent être importants dans les motivations ou l'absence de motivation pour le vote.
Mais ils le sont. Ils le sont de façon empirique, ils le sont et ils le restent. Même les abstentionnistes dans le jeu politique ne remettent pas ça en cause.
Je suis d'accord avec votre argument, c'est pas ça. Je trouve que c'est... Mais je crois qu'il ne faut pas avoir honte du paternalisme.
C'est une fois, je ne suis pas sûr que le paternalisme.
C'est pas grave, même pour un libéral, de dire qu'il y a des personnes pour lesquelles.
Il faut leur couper les fesses.
Voilà. Pour lesquelles il est besoin d'incitation, même légale, à voter, à participer à la vie politique, etc. Il n'y a pas de. C'est pas tellement grave.
Oui, ça rend. Ce serait un débat sur. Je cherche un autre terme que le paternalisme.
La question de savoir si c'est vraiment du paternalisme. Mais bon, ça peu importe. Mais...
La recherche des procédures les plus équitables et les plus justes possibles pour l'ensemble de la population, j'ai du mal à les ramener à. Je voudrais trouver autre chose que du paternalisme.
Voir le bien de quelqu'un qui ne le voit pas lui-même.
Si ceux qui ne vont pas voter sont ceux qui ne sont. Pas en totalité, mais souvent des gens mal éduqués, ça présuppose dans votre argument qu'il manque d'autonomie. Et donc, il faut faire une loi obligatoire pour les obliger à voter. C'est pour ça que je reçois vos définitions du paternalisme. Les gens à qui s'adresse la loi sont des gens qui ne font pas des actes libres, d'après vous, qui sont déterminés socialement. C'était votre définition de l'autonomie. Quelqu'un qui fait un choix éclairé. Et donc, dans votre raisonnement, l'idée, c'est ceux qui appartiennent à une classe défavorisée, en gros, ne font pas des choix éclairés. Donc, ils ne sont pas libres. Donc, quand on fait une voie qui rend le vote obligatoire, la raison fondamentale, c'est qu'il faut les forcer d'être libres. Pour prendre
l'expression. On permet de leur donner les conditions, de donner à tous les conditions de son autonomie. Sauf que la mesure s'adresse à tous.
Ah oui, bien sûr.
Il me semble, mais c'est une interprétation, ce ne serait du paternalisme si ça ne s'accompagnait pas, justement, d'une... Et rien d'exclus de... Il me semble, hein, de le faire. Éducation précisément aussi d'une civique, c'est-à-dire que c'est pas, ne réduisons pas le vote dans ces pays-là à la simple obligation de se rendre aux urnes. Il y a quand même aussi toute une incitation, il me semble, culturelle, une culture de la, une, voilà.
Ce sont les gens les plus éduqués qui vont recevoir cette argumentation comme effectivement valable.
Ah mais
ce qui ne serait pas allé de toute façon si on rend le vote obligatoire, c'est pour eux.
Je suis pas sûr. L'éducation civique dans les écoles existe après tout.
Enfin, oui, mais
c'est pas forcément. Alors Jean-Paul voulait la parole, mais il y avait Patrick.
C'est juste pour réagir en fait. La fois, on voit bien qu'on a tous ici des cours d'éducation civique et il y a très très peu de temps, quoi, par rapport aux plus vieux. Et pourtant, c'est les plus jeunes qui vont s'inscrire bien massivement. Donc l'éducation civique, je pense, sont.
Elle est mal faite.
Vous avez des cours d'éducation civique.
Oui, Patrick. Premièrement.
Qui est Patrick, c'est là. Ah oui, nous, on n'a pas de. En Belgique, on a un vote obligatoire, mais on n'a pas de campagne d'éducation civique.
Pas de cours d'éducation. Patrick, tu voulais prendre la parole.
Le passage que j'ai trouvé le plus fort dans votre exposé, c'était effectivement ces corrélations statistiques dont vous avez fait état. Corrélation à plusieurs variables et dans plusieurs directions. Je voudrais être sûr d'avoir bien compris, parce que je crois qu'en fait, il y a eu glissement et amalgame entre plusieurs corrélations et plusieurs variables. Vous avez dit, premièrement, que la propension à voter est beaucoup plus forte dans les classes les plus éduquées que dans les classes les moins éduquées. Au Canada, en France, très bien. Vous avez dit, deuxièmement, que plus l'abstention est forte dans une société donnée, plus on constate que les inégalités de niveau d'instruction y sont fortes. Les inégalités y sont fortes.
Est-ce de revenus.
Pardon ?
De revenus.
Et voilà. Alors ça, c'était justement le doute qui m'est resté. Est-ce qu'il y avait une troisième affirmation qui concluait également aux inégalités de revenus ? Et dans ce cas-là, il faudrait se poser la question, quelle est la corrélation entre les inégalités des niveaux d'instruction et les inégalités des niveaux de revenus ? Parce que toute l'argumentation ne fonctionne que s'il y a concomitance et même coïncidence entre l'inégalité des niveaux d'instruction et l'inégalité des niveaux de revenus, ce qui, à mon sens, est loin d'être certain.
Ah bon, pourquoi ?
Ah bon ?
Parce qu'à part à part les professeurs d'université qui sont très... Moi, je vois une corrélation assez forte entre le niveau de revenus et le niveau d'instruction, mais... Non, donc juste poursuivre mon raisonnement. Oui, je vous écoute.
Il y a des statistiques, hein, je pense. Je ne
suis pas certain, parce que bon, votre argumentation consistait à dire, je comprends parfaitement, qu'il faut évidemment étendre la participation au maximum pour que les intérêts des moins instruits, c'est-à-dire des plus pauvres, soient pris en compte. Je trouve que c'est un tout petit peu rapide. Je vais donner un exemple de ce que je pense toujours à ma grand-mère, excellente femme au demeurant, mais qui disait toujours, qui votait en fonction de la qualité et du soin des nœuds de cravate des hommes politiques. Cela a contribué fortement à l'éveil de ma conscience politique, parce que je me suis dit quand j'avais, je sais pas, 12-13 ans, que c'était peut-être pas quand même le dernier des critères. Et je me demande, jusqu'à aujourd'hui, faut-il se réjouir de la participation de cette électrice qui vote sur la qualité du nœud, de la cravate, pour telle bonne politique, plutôt que pour telle autre. Autrement dit, pour le dire d'une façon plus sérieuse, c'est un argument qui vient de l'utilitarisme, qu'on trouve chez Mill, qu'on trouve chez Sedgwick, encore beaucoup plus massivement. Le bien collectif, la pertinence d'un scrutin n'est-elle pas d'autant plus forte qu'il y a plus de gens éclairés, bien instruits, qui participent, et moins de gens peu instruits, peu éclairés, qui y participent. C'est-à-dire que, pour moi, je ne vois pas, bien sûr dans les faits aujourd'hui, empiriquement je le vois, mais je ne vois pas un lien d'essence entre une participation faible des couches faiblement instruites et la non-prise en compte des intérêts des plus pauvres pécuniairement dans l'orientation politique de la société.
D'accord. Je vais vous répondre, c'est une question très importante. Alors, effectivement, il y a une partie empirique. Est-ce qu'on peut passer de là à un argument normatif, hein ? C'est un peu votre question. Parce que la partie empirique, donc vous parliez de la corrélation statistique dont je parlais, là je me suis appuyée sur des études qui ont été faites par il y a plein d'études sur le vote obligatoire qui ne sont pas du tout normatives en fait, et qui sont très intéressantes, qui montrent effectivement en propension à voter plus élevée dans la classe éduquée, que l'idée était exactement celle-ci, c'est que quand le taux d'abstention augmente, on voit que les classes moins éduquées tentent à s'abstenir plus que d'autres. Et la troisième étape du raisonnement consiste à montrer qu'effectivement, plus le taux de participation décline dans une société, plus les inégalités de revenus s'accroissent. Se fondant effectivement sur l'idée qu'il y a une corrélation très forte entre niveau d'éducation et niveau de revenus. Alors, est-ce qu'on peut passer de là ? Maintenant, est-ce que ça suffit à répondre à votre argument selon lesquels il serait bon que les plus instruits, les plus éclairés soient ceux qui votent le plus. Ça nous permettra les politiques les plus intelligentes, un jour, y compris pour les plus pauvres. Alors, avant de répondre à ça, je voulais juste dire qu'il y a une autre version de cet argument qui était, enfin, c'est pas tout à fait la même version, une autre version d'argument qui a consisté à dire, mais ce qu'il y a de bien quand le vote n'est pas obligatoire, c'est que ce sont ceux qui sont les plus motivés, les plus intéressés qui vont participer, les plus intéressés par la mesure concernée. Et donc, c'est bon que participent d'abord ceux qui sont les plus concernés. Bon, ça, une façon de répondre, c'est que dans une élection générale, en principe, il y a tellement de sujets que tout le monde doit être concerné. Est-ce que l'argument vaut encore aujourd'hui que les plus instruits, les plus éclairés Je serais tentée de vous dire, ça marchera en théorie, mais ça ne marchera pas en pratique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en théorie, oui, effectivement, on pourrait estimer si, effectivement, ceux qui votent le plus étaient une classe de sages, très éduqués, mais n'ayant pas forcément des revenus importants dans la société. La difficulté, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la corrélation est tellement forte entre le niveau d'instruction et le niveau de revenu que ça va se traduire, effectivement, par un affaiblissement des politiques. Ça risque de se traduire par des moindres politiques de solidarité. Donc, en théorie, ça marcherait, mais en pratique, je ne vois pas comment. L'argument élitiste, enfin en tout cas l'argument, votre argument qui est un argument élitiste, hein, qu'on peut assumer sur le plan normatif, c'est-à-dire une démocratie pour le bien du peuple, plutôt que par le peuple, me paraît difficile à maintenir en pratique. J'ai pas de réponse plus satisfaisante.
Petit peuple de bas de page, oui. J'appellerais de mes voeux une plus forte corrélation entre le niveau de revenu et le niveau d'instruction, pas seulement pour les professeurs d'université. Enfin, c'est tout.
Mais vous l'appelleriez de vos voeux, parce que franchement,
ceux qui gagnent le plus ne sont vraiment pas les plus instruits dans nos sociétés.
Ça dépend de ce qu'on appelle instruit. Hein. Nous, ouais. Ce qu'on appelle instruit, c'est que toute personne titulaire d'un niveau de niveau universitaire, on ne demande pas d'être titulaire d'une thèse de doctorat, évidemment, parce que ça devient vraiment une fraction. Donc, les plus hauts niveaux de revenus, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui soient en deçà de ce niveau-là.
Moi, mon point, c'était sur l'intérêt de l'augmentation de la participation dans un système électoraliste de politique représentationnelle. Parce que, depuis la fin d'un parti, alors lui, par contre, patriarcal, assumé, vraiment prolétaire, c'est-à-dire le PCF, on a une lassitude prolétaire de la mascarade électorale, on la constate de fait, et qui se traduit par ces chiffres de l'abstention chez notamment les plus pauvres. Mais c'est pas pour ça que la classe prolétaire a abandonné la politique. Elle constate juste que le système électoral n'est pas le moyen efficace pour défendre ses intérêts. Et c'est là que j'ai noté plusieurs identifications plusieurs égalités dans votre conférence qui pour moi n'ont pas de sens. Par exemple, l'apolitisme, ce n'est pas la partisanat. On peut très bien être très politisé et être apartisan. Et c'est comme ça qu'on peut choisir l'abstention. Donc, le fait même d'aller au bureau de vote est quelque chose, et donc de participer en cochant abstention est un choix politique important que certains refuseraient de faire intentionnellement. Mais juste en fait. Ma position, c'était sur l'intérêt d'avoir davantage de participants à ce système électoral, sachant que les classes ouvrières, la classe ouvrière et donc prolétaire se détournent de ce moyen de lutte. Voilà. Et du coup, je voulais répondre par rapport au paternalisme de la redistribution des richesses, c'est pas un paternalisme, ça repose juste sur un rapport de force. Un rapport de force imposé des plus pauvres aux plus riches pour une redistribution des richesses. Et ce rapport de force est contextualisé, et donc la redistribution est plus ou moins grande en fonction de ce rapport de force, si ce rapport de force est de plus en plus efficace ou pas, pour la classe prolétaire.
Juste avant de vous répondre, je reviens. Et pour vous donner du grain à moudre, je dois avouer que pour être tout à fait honnête avec vous, il y a quand même un certain nombre d'études d'opposants, enfin de partisans de la suppression du vote obligatoire, notamment en Belgique, qui ont fait valoir que parfois le vote obligatoire peut augmenter le vote extrémiste. Et notamment, et donc, quand vous disiez il vaut peut-être mieux, donc, sur les inégalités de revenus, de vous répondre, je ne crois pas que le fait que le vote soit monopolisé par les plus instruits et les plus éclairés puisse augmenter l'égalité des revenus. Par contre, c'est vrai que le vote obligatoire peut, dans une certaine mesure, favoriser des partis plus extrémistes. Donc ça, c'est un contre-argument auquel je n'ai pas de réponse. Je voulais juste vous le donner. Par rapport à la question de monsieur, mon argument se situe effectivement dans la logique de quelqu'un qui a encore la faiblesse de croire à la démocratie représentative. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne conduit pas à faire du vote le seul moyen de participation, mais à considérer que le vote reste un élément central de la participation et que la démocratie représentative compte et que le rapport de force que vous appelez de vos jeux, justement le but du vote obligatoire, c'est permettre à ces forces, si vous voulez, à ce rapport de force de peser sur les mécanismes de la démocratie représentative. Et ça n'élimine pas, évidemment, toutes les autres formes de lutte ou d'association, ou tout ce que vous voulez. Mon propos portait juste là-dessus. Dire si on veut faire basculer le rapport de force c'est, au sein de la démocratie représentative, le principe du vote obligatoire peut être un des moyens d'y aider.
En fait, je ne sais pas pour la Belgique, mais en France, en tout cas, le vote obligatoire a été pratiqué de fait, en tout cas pour une majeure partie de la classe prolétaire, par le PCF et par la CGT. C'était il faut aller voter PCF, il faut aller voter pour le parti. Et du coup c'est...
Mais ça, c'est pas, ça, c'est un vote pour un parti.
Ça a déjà été essayé.
Oui, c'est pas ça que j'appelle le vote obligatoire.
Hein. C'est pas le même type, mais ça a déjà été essayé. Après, dans l'isoloir, le prolétaire faisait ce qu'il voulait. Il pouvait ne pas voter PCF s'il le voulait. Sauf que ça a déjà été essayé, à mon avis. Et du coup,
Non, l'incitation à voter pour un parti n'est pas le vote obligatoire. C'est pas la même chose. À ma connaissance, on m'a dit que Pierre Mendès France avait défendu le vote obligatoire dans un article que j'essaye de retrouver, et Vincent Auriol. Mais du côté du PCF, on ne m'a pas donné de...
Il y avait Chloé qui avait demandé la parole, et après vous deux là-bas.
Le vote obligatoire, si le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui ne votent pas et qu'on attribue un des facteurs à l'éducation, pourquoi est-ce qu'on veut normativer le vote en rendant obligatoire en s'attaquant pas au problème qui est l'éducation? Est-ce que c'est pas un moyen de se voiler la face? Enfin, je vois pas très bien le rapport d'essayer de rendre quelque chose obligatoire.
C'est pas du tout une question naïve, parce que c'est exactement la même que celle que m'a posée Ruben Augien, qui est quand même pas naïf, donc qui est un philosophe. Il m'a dit, mais c'est bien, pourquoi tu veux mettre le vote obligatoire? Si le problème c'est l'éducation, tu n'as qu'à augmenter le niveau d'éducation. J'ai dit, évidemment, il faut bien être clair. Là, c'est un petit travail ponctuel que j'ai fait sur le vote obligatoire. Je ne considère pas du tout que le vote obligatoire soit la solution, soit même la solution. Si vous me donnez le choix entre augmenter massivement le niveau d'éducation, donner des moyens massifs à l'éducation de base, à l'éducation secondaire, à l'éducation supérieure, ou me battre pour l'instauration du vote obligatoire, je vais vous dire que je choisis la première solution. Ce que je veux dire, c'est simplement, dans l'état actuel où on considère que les inégalités en termes d'éducation vont perdurer pour un temps indéterminé, ça peut être un moyen de contrecarrer partiellement les effets liés à l'inégalité d'éducation sur le mécanisme de vote. C'est tout. Donc c'est une proposition très modeste en ce sens.
Là-bas. Non, à côté plutôt. Non, il avait demandé la parole avant.
Bonjour, merci de vous être déplacé. Pas vraiment de question, mais ça fera peut-être une réponse de votre part quand même. C'était surtout une remarque un peu théorique et deux propositions plus pratiques. D'abord, vous avez cité Mille sur la valeur éducative du vote. Je suis probablement beaucoup moins érudit que vous, mais j'ai essayé de me souvenir de la liberté de Mille. Et je ne me souviens pas qu'il ait parlé de valeur éducative du vote, mais surtout de la valeur éducative d'une participation à la communauté. Ce qui, de fait, engendrerait une augmentation du vote, mais le vote n'est pas éducatif en soi, il est corrélé au niveau d'éducation. Non, enfin, j'ai jamais entendu personne me dire qu'il a appris en votant. Pour moi, ça fait partie des contresens qu'on fait souvent. Ensuite, une proposition pratique, c'est les députés à l'Assemblée nationale, je ne sais pas comment c'est en Belgique, en France, ils ne sont pas obligés de s'y aider. Et pense qu'avant de s'attaquer à l'obligation de voter, c'est pas mal d'obliger les députés qui, eux, sont pas qualifiés, les obliger à siéger. Et de même, la reconnaissance du vote blanc, vous avez dit tout à l'heure que les votes blancs augmentaient moins que la participation quand on oublie le vote. Mais si on ne reconnaît pas les votes blancs, c'est sûr que c'est quelque chose d'un peu inutile. Si ce n'est pas compté dans les pourcentages pour les résultats aux élections, ça ne sert à rien au final de voter blanc. C'est vrai, ça ne pèse absolument pas dans la balance, pas plus que l'abstention. Donc si on n'oblige pas les députés à siéger, et si la reconnaissance du vote blanc n'est pas effective, pour moi, c'est non seulement la question du vote obligatoire ne se pose pas, mais en plus, c'est presque indécent. C'est quand même faire passer quelque chose qui pour moi, n'est pas prioritaire.
Oui. La deuxième question est la plus facile, effectivement, sur le... Alors, moi, il me semble qu'idéalement, le vote obligatoire doit s'accompagner d'une comptabilisation des votes blancs, ou en tout cas de l'abstention, avec carrément une croix, quoi, qui vous permette de cocher, que ce soit même pas que vous rendez un bulletin blanc, c'est la possibilité, comme je disais, de cocher aucun des partis, vous auriez tous les partis, hein, et puis en dessous, aucun de ceux-ci. Quelque chose comme ça. Et puis bah, après, si vous voulez encore rendre, vous voulez même pas cocher cette case et rendre un vote blanc, ça pourrait être encore autre chose. Mais effectivement, ça doit être comptabilisé. Est-ce que ça doit être assorti d'une obligation des députés de siéger? Bon, là, c'est des considérations dans la mesure du possible, oui, mais je ne sais pas ce que vous avez en tête quand vous dites l'obligation de siéger, qu'il soit présent à toutes les commissions, à toutes les séances, qu'il y ait un quorum ou un certain taux d'assiduité qui soit fixé ou quoi que ce soit, ou un contrôle plus étroit sur ce qui est fait, je veux dire, c'est possible. Mesure qui pourrait être prise en plus. Alors, la valeur éducative du vote, je suis allée re-regarder mon texte, effectivement. Alors, tout ça vient des extraits que je vous ai donnés, viennent de considérations sur le gouvernement représentatif, mais je n'ai pas mis valeur éducative du vote entre guillemets, contrairement à d'autres phrases que je vous ai citées. Donc, je suis tentée de penser que la phrase est de moi, effectivement, et pas de lui. Il faudrait que j'aille le relire. Consideration and government representative, parce que je vous ai cité, dans une nation civilisée et adulte, il ne devrait y avoir ni paria ni homme frappé d'incapacité du fait de sa propre faute, la participation de tous au bénéfice de la liberté, le concept idéalement parfait du libre gouvernement, tout ça c'est 2000, c'est pas de moi, parce que c'est entre guillemets, mais j'ai mis effectivement, il insiste sur la valeur éducative du vote, mais c'est moi qui l'ai écrit, donc est-ce que j'ai trouvé la formule chez 1000, je vous laisse le bénéfice de la critique, en estimant que c'est plutôt moi qui l'ai rajouté, effectivement. Il faudrait que je re-regarde le texte. Désolée pour cette imprécision.
Tout dépend encore après de ce qu'on appelle vote, c'est-à-dire si on entend la par vote participation. Le processus de formation, de l'opinion informée, etc. Là, on peut penser qu'effectivement, le vote désigne bien un processus éducatif qui consiste à, du coup, à s'informer des choix qui sont offerts à la société démocratique au moment où elle doit voter. Si c'est simplement le fait d'aller dans l'urne et de prendre un bulletin au hasard ou de ne pas le prendre, évidemment dans ce cas-là, en ce sens purement restrictif, on ne voit pas quelle vertu pédagogique il peut y avoir.
Oui, mais moi c'est la première formule que j'avais à l'esprit, évidemment, mais je ne suis pas sûr qu'il utilise la formule lui-même. Mais disons, voilà. Pour les associations, en tout cas, c'est très clair. Voilà, il me semblait que simplement un certain nombre de phrases pointaient dans la direction comme quoi participation au processus électoral a une valeur éducative.
Oui, encore un mot et puis après, parce qu'il y a d'autres questions.
Je sais pas si... Enfin, oui, bien sûr, dans la règle de voter, je ne parlais pas de la règle de voter en soi, mais par exemple, vous avez vu la tête qu'a fait Patrick Plante tout à l'heure pour la règle de CJS, l'éducation à voter, on apprend.
Ça ne discrimine pas toute entreprise éducative. C'est peut-être le contenu qui est mal fait, etc. Je ne sais pas.
Je crois qu'il ne faut pas entendre la notion éducative dans un sens éducation qui est transmise par un professeur à ses élèves. Quand j'avais valeur éducative, c'est plutôt valeur de formation qui peut être la valeur formatrice qu'il y a à participer à ce processus d'information et de voter. J'avais pas l'idée d'une campagne d'éducation civique qui est envoyée, qui va du haut vers le bas, si vous voulez. C'était plutôt tout le processus de socialisation qui va vous conduire à voter et d'information qui va vous conduire à voter, qui peut contribuer à votre éducation individuelle, même si tout ce processus vous le faites tout seul. Vous comprenez ce que je veux dire?
Il y avait une question tout au fond. Voilà.
Oui, je vais revenir sur la question de la relation. relation entre le niveau de revenu et le niveau de l'éducation. Moi, ce que je suis bien en sociologie, la corrélation, si on peut l'identifier, elle n'est pas stable du tout si on regarde l'espace social bourdieusien. Il y a des gens qui sont répartis un peu partout dans la sphère et la corrélation, on la voit, mais elle est instable. Et au niveau, pour quelqu'un de libéral, donc ici on le droit individuel, si on individualise pas un petit peu les situations, ça gâche un petit peu l'argument. Et d'autre part, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne s'interroge pas effectivement sur le fait que ce soit bien que tout le monde vote au sens le plus large, et pourquoi est-ce que est-ce qu'on devrait inciter forcément pourquoi est-ce que ce serait bien d'inciter les plus pauvres ou les plus démunis en capital culturel à voter? Parce que ça me paraît évident comme en nous moderne, mais enfin, c'était pas forcément évident. Ça va toujours évident. Alors, je dis pas que c'est forcément mauvais, mais pourquoi pas se poser la question et postuler dogmatiquement que c'est bien forcément que on élargit ce maximum de votes pour protéger, je pense, les guillemets les plus démunis.
Sur la première question, je pense que effectivement, sur cette corrélation niveau d'éducation, niveau de revenu. Là, il faudrait peut-être plus d'éléments empiriques que ce que j'en ai apporté. Je crois qu'il faudrait surtout préciser le niveau d'éducation dont on parle. Parce qu'il faut bien voir que pour les études empiriques qui sont faites, le niveau d'éducation supérieur, c'est très vite. Je pense qu'on y est dès les trois premières années de bachelier ou quelque chose comme ça, donc, ou les deux années de master. Donc, une personne qui, pour vous, à vos yeux, n'est peut-être pas éduquée, va l'être au regard des études empiriques que j'ai citées, va entrer dans la catégorie niveau plus bac, quoi, c'est tout simplement, ou niveau d'éducation supérieur. Alors, la deuxième question me paraît rejoindre très largement votre question. Donc, c'est toujours la question de savoir pourquoi est-ce qu'une participation large est nécessaire. Est-ce qu'après tout, on ne peut pas se dire que la société sera mieux ordonnée, plus juste, plus équitable si les décisions sont prises par une élite? C'est un peu ça. Donc, ça veut dire... C'est l'argument que répondait tout à l'heure. Moi, je n'ai pas, sur le plan théorique, pas d'objection. Sur le plan pratique, j'ai certains doutes quant à la redistribution des revenus. Surtout, l'argument qui est souvent avancé, c'est de dire finalement c'est bien l'abstention parce que c'est ceux qui sont le plus intéressés par les questions qui vont se mobiliser, qui vont aller voter. Et donc, ceux qui sont les plus intéressés, les plus concernés, sont aussi les plus informés et donc les mieux à même de décider ce qu'il convient de faire dans tel ou tel cas. Ça, c'est un argument qui est souvent avancé. Consiste à dire ça a un effet. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, ça me paraît un argument qui ne me tient pas du tout pour les élections qui concernent trop d'enjeux à la fois. Ça va s'il s'agit de savoir, effectivement, sur des questions très précises, comme de savoir s'il faut construire une rame de tramway à tel ou tel endroit. Mais la plupart des élections renvoient à tellement de sujets qu'on peut dire qu'il n'est pas possible d'identifier une classe de citoyens qui serait particulièrement plus informée ou plus concernée par l'enjeu en cause.
Oui, et puis après Jean-Paul.
Plusieurs questions. L'obligation de vote et punition. Quel type de punition pour les trois pays? Donc il y avait la question aussi par rapport au bulletin blanc, mais j'ai l'impression que vous avez répondu comme quoi les bulletins blancs ne sont pas comptabilisés dans ces trois pays, ce qui est quand même problématique, parce que pour moi c'est une négation justement du citoyen. Autre question, c'était par rapport à l'idée du vote, c'est voter pour le bien de la société. Les personnes, donc les citoyens qui sont en droit de voter, vont voter pour tous les deux ans, tous les trois ans, tous les cinq ans. Je vois une certaine légèreté dans la participation de la loi, de la réglementation par rapport à une société. Sachant que les lois sont votées par les sénateurs et les députés en France, je ne connais pas les trois autres pays, mais les votes de loi, il y en a, ils en comptent toutes les cinq minutes. Enfin, j'exagère bien sur les traits, mais les votes de loi sont quand même assez... Il y en a beaucoup qui vont être votés. Et comment, face à un nombre assez important de votes qui concernent donc la société entière, voter une fois qu'il est deux ans, trois ans, cinq ans, je trouve un peu démesuré.
Vous voulez qu'on vote plus souvent?
Comment?
Vous voulez qu'on aille plus souvent voter?
C'est une question, mais qui reste en suspens, parce qu'il y y a un canton suisse qui a une... Alors, je ne sais pas s'il parle d'obligation de vote, hein, par contre, là, parce que je ne connais pas assez.
Il n'y a pas de vote obligatoire. Il y en a un où c'est obligatoire.
En tout cas, dans ce canton auquel je pense, il y a une participation, alors, j'allais dire obligatoire, mais je ne sais pas si c'est le terme exact, mais où tous les citoyens doivent être présents pour...
Ah ben c'est le référendum, oui, c'est autre chose.
Oui. Doivent,
la votation directe.
Représenter leur
oui.
Parole. Et là, je, enfin, voilà. Mais je trouve qu'il y a une certaine démesure, voilà, entre voter une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans, une fois tous les 5 ans, enfin, le nombre de votes votés.
Oui.
Donc, la dernière chose, c'est
oui.
L'idée que tout
peut-être limiter les questions quand même.
Comment?
Une dernière, c'est grave parce que ça fait une salve de questions là.
C'est l'idée que tout le monde puisse voter. Et il me semble, c'est se leurrer ou d'être un peu aveugle, parce que, sans parler bien sûr de l'exemple de la grand-mère qui regarde le nœud, ou de la femme qui dit je vote pour lui parce qu'il est croyant. Là, mais sans parler de ces exemples-là, il me semble qu'il y a des. Il y a en France, en tout cas, il y a des adultes qui ne sont pas en situation, enfin, je ne sais pas juridiquement dans ces nommés, mais en une certaine incompétence de vote.
Oui.
Et ça, par contre, effectivement, il faut qu'ils soient représentés. Mais là, c'est un souci parce que la représentation de nos citoyens démocrates à l'Assemblée aux députés et au Sénat, la représentativité, elle est quand
bon.
Même assez tranquille.
Oui, donc sur la punition, la sanction, effectivement, c'est ce qu'on a, on remarque, c'est que ce qu'il y a de bien avec le principe du vote obligatoire, c'est que c'est une mesure qui marche, alors même que les sanctions sont très faibles. Il y a des études qui ont été faites en Belgique, je crois que le taux de poursuite était de 5%, quelque chose comme ça. Oui, attendez, je termine ma phrase. Le taux de poursuite, c'est-à-dire que déjà, si vous n'allez pas voter, vous avez à peu près 5% de chances d'être poursuivi. Et si vous êtes poursuivi, on vous enverra une lettre, on vous demandera de venir expliquer pourquoi vous n'avez pas été voté. Et si vraiment vous ne vous donnez pas une explication suffisante, je crois que vous aurez 50€ ou quelque chose comme ça. Donc, c'est extrêmement faible. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que malgré ça, ça marche. Et ça marche très bien. Alors, il faut aussi savoir, simplement pour nuancer cet argument... C'est qu'évidemment, il y a des États où ça fait partie de notre histoire. Je veux dire, voilà, nous, le vote obligatoire a toujours existé. Enfin, ça fait pas très long, puisqu'on est un pays jeune. Et donc, ça nous paraît normal, cette obligation est intégrée. Peut-être que dans un pays, si on instaurait le vote obligatoire dans un pays comme la France, ça susciterait de telles réticences et de tels énervements qu'il faudrait que les sanctions soient plus lourdes. Donc, quand je vous dis que ça marche, même si les sanctions sont très faibles... C'est pas aussi évident que ça si on devait l'instaurer dans un nouveau pays. Les bulletins blancs, oui, on en a déjà parlé. C'est pour ça qu'effectivement, moi, je fais mienne la proposition qui a été faite par certains de comptabiliser les abstentions. La question relative à la Suisse, c'est une question qui me semble poser autre. Moi, c'est vrai que je me situe dans le cadre de la démocratie représentative. Je dis, voilà, l'obligation de vote, c'est quelque chose qui est intéressant dans le cadre de la démocratie représentative. Là, ce que vous parler, c'est ce qu'on appelle les modes de votation directs. Et donc, ça entraînerait tout un débat qu'on va peut-être pas avoir ici, mais sur les avantages comparés du référendum et de la démocratie représentative. Par contre, votre dernière question, là, j'aimerais juste prendre une réponse, c'est intéressant, vous me dites, au fond, ça rejoint la grand-mère de monsieur qui votait en fonction du nœud de cravate. Mais moi, je dis c'est étonnant, parce que ça me permet un peu de retourner l'objection de paternalisme qui m'a été faite, consiste à dire, mais vous dites que les gens peu éduqués ne vont pas voter, c'est du paternalisme. Je trouve que l'argument qui consiste à dire, au fond, si on rend les procédures de désignation des gouvernants les plus égales possibles en instaurant le vote obligatoire, il y a des tas de gens qui vont voter, alors qu'en fait, ils ne sont pas très compétents pour voter. Ça, par contre, ça me paraît très paternaliste. Oui. De rentrer dans les motivations des votes, si une grand-mère a envie de voter en raison d'une nœud de cravate, ce n'est pas à moi de juger que ce n'est pas une raison légitime. Ce que je voudrais... Vous trouvez ça très bien, voilà. Mais je veux dire, là, si on commence à présupposer qu'il vaut mieux pas étendre le vote de façon la plus large possible, parce que sinon, il y a des gens qui vont voter en fonction de raisons qui ne nous paraissent pas légitimes, ça, c'est carrément du paternalisme. On peut l'assumer, mais je trouve qu'à ce moment-là, on enfreint vraiment la frontière privée-publique, si vous voulez. On rentre dans les motivations privées des gens. Moi, tout ce que je veux, c'est que les gens aillent au bureau de vote. Après, ils se décident en fonction. Je n'ai pas à décider, je n'ai pas à leur dicter les bonnes et les mauvaises raisons de voter.
Tout à fait. Jean-Paul, et puis après
par rapport à la corrélation entre l'éducation, on en parle tout à l'heure, mais le niveau d'éducation et le taux de participation, cette corrélation-là, en fait, me semble bizarrement pas évidente, notamment en France, en fait, où j'ai l'impression que le taux de participation chute continuellement, et que pourtant, plus de gens vont en fac, vont en faire des études plus longues, etc. Et du coup, je sais pas, le taux de participation a dû baisser, je sais pas, peut-être de 15 points en 20 ans, quoi. Et je pense pas qu'il y ait 15% de plus d'analphabètes, en fait.
Ah oui, non, ce sont deux qui sont différentes. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est qu'en fond, le taux de participation globale descend, alors que le taux d'éducation globale de la population augmente. Moi, ce que je disais, c'était que le taux de participation est beaucoup plus élevé qu'au sein d'une société donnée dans les classes les plus éduquées que dans les classes les moins éduquées. Et que ce qu'on constate, c'est que quand la participation descend, elle descend plus dans les classes moins éduqués. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vrai, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vrai que ça n'invalide pas votre remarque qui consiste à dire l'augmentation globale du niveau d'éducation ne suffirait peut-être pas à redresser le niveau de participation.
Ça, c'est ce qu'il faut répondre à Robin Néogien.
Voilà. C'est vrai, c'est une bonne réponse. Je la note tout de suite pour si. Mais donc, c'est.
Le PCF aussi, beaucoup de
prendre deux, trois dernières questions, puis après on arrêtera là. Alors il y avait une question juste avant là, et ensuite tout au fond, et après là, allez, les trois dernières.
Donc, bonjour.
Moi je voulais revenir sur le moment où vous avez évoqué l'égale liberté comme participative de la protection que ceux semblera dévaloriser, que je vais appeler faible vis-à-vis des puissants, donc les pauvres vis-à-vis des riches. Et donc moi je suis un défenseur, je le dis tout de suite, je suis un défenseur de la liberté individuelle en elle-même. Pour moi, la liberté individuelle, je conçois l'égale liberté comme justement située dans le fait que l'individu va exercer sa propre liberté, enfin que je conçois quand même, si on se place du point de vue de la société, donc qui va être en gros sujet aux lois. Donc selon sa conception propre qu'il va avoir de la vie en communauté. Et de plus, comme vous dites que cette égale liberté est participative de la protection des faibles par rapport aux puissants, comme je l'ai dit, j'ai quand même un léger doute concernant ça, parce que je me demande vraiment si cette domination qu'exercent les riches et ceux qui possèdent le pouvoir sur les pauvres est dépend-elle de cette égale liberté que le vote obligatoire propose, c'est-à-dire que plus la domination va être pouvoir un peu plus contenue par ce vote obligatoire. Et bon, je trouve quand même que par exemple, dans un pays même qui ne propose pas le vote obligatoire comme la France, mais où la domination des puissants vis-à-vis des faibles est quand même incontestable, je voulais dire par rapport au gouvernement de M. Sarkozy qui est en place en ce moment, on a vu justement une vague de contestation forte avec des manifestations qui ont pris une ampleur. Une très grande ampleur qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps face justement à cette domination. Et pourtant, on pourrait dire qu'à travers cette manifestation, les gens proposent leur droit, opposent leur droit justement. J'arrive pas vraiment.
Mais quelle question vous voulez poser en fait c'est...
Ouais, voilà. C'est ça que j'arrive pas à formuler, c'est que justement par rapport à cette vague de contestation de la mise en place du pouvoir par le gouvernement de M. Sarkozy, les gens se sont réunis pour s'opposer à ces pressions, mais on pourrait considérer qu'il y a une notion d'égale liberté entre ces gens par rapport à la donc à la pression qu'on pose de gouvernement, mais il n'y a eu aucun changement. Et je me demande si le vote obligatoire, au final, serait vraiment la réponse quant à ce genre d'exemple de situation qui se passe en France. Est-ce que...
Non, absolument pas. C'est la réponse. La réponse est absolument pas. C'est pas. Je veux dire, il faut pas. Je voudrais pas vous promettre plus que je ne. Encore une fois, ça rejoint la question qui m'a été posée tout à l'heure. Le vote obligatoire n'est sûrement pas la réponse à tous les phénomènes de manipulation, de pression, d'autoritarisme, d'abus de pouvoir qu'on peut rencontrer au sein d'une société. C'est une mesure modeste, ponctuelle, pour tenter de rendre la démocratie représentative un tout petit peu plus équitable et un tout petit peu plus égale. C'est tout. Mais ça n'a pas d'autre portée, ça n'a pas une portée plus large.
Alors, allez, mademoiselle en violet là-bas, et puis ensuite ici, et on arrêtera. Des questions courtes, s'il vous plaît.
Alors, c'est par rapport à votre argument, selon lequel, en fait, le fait d'obliger les gens à venir voter, à venir s'exprimer, en quoi est-ce que cela allait vraiment pouvoir aller contre les déterminations sociales, puisque dans l'obligation de venir, il n'y aura aucune conviction personnelle, et du coup cela va se répercuter sur le vote blanc ou le vote nul ou le vote extrême, et est-ce que ça va vraiment créer un changement positif et contre le déterminisme social?
D'accord. Effectivement, alors, je pense. Enfin, il faut juste garder à l'esprit que ce n'est pas, si le vote est obligatoire, ça ne veut pas dire forcément qu'on va y aller, qu'on va aller, ça veut pas dire forcément qu'on va aller voter contre son gré, si vous voulez, qu'on va se sentir violé. Ça veut dire simplement qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont ressentir ça comme une atteinte à leurs droits individuels et qui vont aller cocher la case abstention. Mais il y a aussi, je pense, une série de gens dont on dit qu'ils sont hors du jeu politique parce qu'ils ont un sentiment d'impuissance, un sentiment que leur voix ne compte pas, qui, du fait qu'ils sont obligés de se déplacer, vont peut-être se sentir, si vous voulez, en retirer une certaine forme de reconnaissance, de dire « tiens, je suis obligé d'y aller, donc ma voix compte, donc il faut que je m'informe un tout petit peu ». Et donc ça peut un tout petit peu pallier ce sentiment d'impuissance ou de hors-jeu que peuvent ressentir certaines catégories de la population. Le deuxième avantage évident, c'est que ça va obliger les politiques à s'intéresser à des catégories de population qui sont délaissées, parce que pensez bien que tous les états-majors des partis politiques ont leurs cartes et savent les électeurs qui votent et ceux qui ne votent pas. À partir du moment où toutes les cartes doivent être remises sur la table et dit on doit considérer tout le monde et tout le quartier là dont on sait que ces gens ne votent pas, il va falloir maintenant en tenir compte, ça peut modifier un tout petit peu les politiques publiques. C'est tout. Bon, maintenant, moi, j'ai pas. Je veux dire, mon argument, il est principalement normatif. Hein. Enfin, je veux dire, le problème, évidemment, c'est que je fais feu de tout bois, donc j'utilise des arguments pragmatiques pour alimenter ma démonstration normative. Encore une fois, je ne pense pas que le vote obligatoire soit la solution à tous les problèmes. Je dis, la seule chose qui, moi, me fait un peu vaciller, c'est vrai, c'est le risque d'augmentation d'extrémisme. Qui aurait été, dans certains cas, c'est-à-dire, il y aurait une tentation de certains électeurs qui seraient tellement furieux qu'ils voteraient pour des partis extrémistes.
Allez, dernière question, et après on termine.
Moi, c'est plus une question sur la légitimité politique nationale. C'est le terrain où se passe le plus grand nombre d'élections. Et sur la démocratie, qui semble être plutôt le système choisi par défaut. Enfin, moi, j'ai l'impression que, par exemple, M. Sarkozy représente 17 millions d'électeurs sur 63 millions de Français. Et pourtant, il y a eu quand même une participation qui était mieux qu'en 2002. Il y a aussi un des intérêts constants de la politique, on le sent grandir quand même. Et la politique perd l'influence, je trouve, ça se vérifie sur la vie du citoyen, tant sur le terrain économique. C'est l'économie qui prend plus le pas sur la politique maintenant, et j'ai l'impression que la politique puisse avoir un enjeu sur l'économie. Et puis, il y a aussi la législation européenne qui commence à manger un peu les décisions nationales. Donc j'ai l'impression que, est-ce qu'on ne cache pas plutôt la faiblesse de la démocratie et de la politique française avec ces questions de vote pour tout le monde? Est-ce que ce n'est pas plutôt la politique en elle-même qui est à mettre en question dans les choix nationaux
La question que vous me posez, en fait, on pourrait dire comme ça, consiste à dire qu'en fait, c'est une cotère, c'est une jambe de bois, enfin, ça n'avance. Le vote obligatoire, c'est encore misé sur l'importance de la démocratie représentative, alors qu'en fait, cette démocratie représentative est de plus en plus questionnée, notamment dans son cadre d'exercice, savoir si elle s'exerce encore au niveau de l'État-nation ou au-delà de l'État-nation. C'est super, parce que ça me permet de faire une habile transition avec la suite des cours que je vais donner ici. Mais je dirais, pour répondre en deux phrases à votre question, je ne crois pas que la démocratie représentative soit encore l'alpha et l'oméga de la démocratie. Dans ce sens, je me sens très proche des thèses développées par Rosan Ballon, notamment dans la contre-démocratie, où il montre comment la démocratie se complexifie, se complique, et donc qu'effectivement, on doit réfléchir à d'autres formes de démocratie, mais je ne bascule pas non plus, ce n'est pas le cas de Rosan Ballon du tout d'ailleurs, mais je ne bascule pas du côté de ceux qui disent la démocratie représentative, ça ne compte plus, il faut s'interroger uniquement sur les formes de démocratie situées au-delà de la forme nationale, plus bas que la forme de l'État-nation, les formes d'association et tout ça. Je pense qu'elle se complexifie, elle se complique, mais je continue, j'ai la faiblesse de penser que ça reste quand même un élément central. Et donc, vote obligatoire est une petite partie de cet élément central, si vous voulez. Il ne prend pas quoi ?
Moins compte de ces évolutions, de la politique et des changements qu'elle connaît. Enfin, on continue à voter pour les mêmes élections et pour les mêmes enjeux, alors que les enjeux changent. Enfin, je vais parler de l'Europe.
Mais on ne vote pas. Ce n'est pas 90% des lois, je vous rassure, c'est 10%, 10, 20%.
Oui, mais non, ça va être de plus en plus important, et j'ai l'impression qu'on vote qu'une fois, et puis c'est pareil sur le terrain économique, j'ai pas l'impression que Sarkozy soit très puissant face à l'économie, la macroéconomie, et j'ai pas l'impression qu'on ait une vraie décision là-dessus, et finalement on vote plus sur
on se revoit vendredi, mercredi. Mercredi, je parle de la citoyenneté européenne pendant 2h30, si ce sujet vous intéresse.
C'est à 232, le faire de droit. Bon, ben, merci beaucoup.
Très sympa, hein. Ils sont super sympas, ils sont bien, très participatifs.
Ouais, bon, avec.
Non, ça va. C'est